Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à toutes et tous. Les rues de Hong Kong, noires de monde pour une nouvelle journée de contestation contre, à vrai dire, la gestion de Pékin de l'ancienne colonie britannique. Nous rejoindrons dans un instant Dominique André dans une manifestation de très grande ampleur. La ville de Görlitz, 55 000 habitants dans l'extrême sud-est de l'Allemagne, pourrait être ce soir la première ville du pays à passer sous le contrôle de l'extrême droite. Précision de Berlin de Nathalie Versieux. Les vertiges d'un parti, La République En Marche, en manque d'horizontalité. Selon plusieurs députés de l'appareil présidentiel, analyse de Steven Goyer. Et puis au sommaire de la face cachée du globe, grève illimitée dans la plus importante mine de cuivre à ciel ouvert au monde, au Chili. Carrie Lam, portée à la tête de l'exécutif hongkongais en 2007 par un comité de 1200 membres à la solde de Pékin, concentre les critiques. Celle qui n'a jamais été élue fait en quelque sorte figure de paratonnerre de la colère. C'est l'incarnation de la gestion par la Chine populaire de Hong Kong, cet autre système d'un seul et même pays. C'est ce que dénoncent ce dimanche par dizaines, par centaines de milliers peut-être les détracteurs d'un projet de loi sur les extraditions qui a fait office de détonateur. Dominique André, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes au cœur de cette manifestation, une mobilisation d'une ampleur impressionnante, n'est-ce pas ?
Oui, parce que les manifestants continuent d'affluer plus de 4 heures après le départ de la marche. Ils continuent d'affluer vers le point de départ qui est donc le parc Victoria. Ils arrivent par des rues adjacentes, des axes de circulation ont dû être ouverts aux manifestants car le parcours principal ne suffit pas à canaliser la marée humaine qui continue de grossir. Alors y aura-t-il autant de monde que la semaine dernière ? On peut se poser la question à l'instant Mathieu car la manifestation la semaine dernière avait rassemblé plus d'un million de Hongkongais. Et ce soir, ils sont déjà plusieurs centaines de milliers dans les rues de Hong Kong. La destination, c'est le siège du gouvernement local, dirigé par Carrie Lam. La chef de l'exécutif local est la cible numéro un dans cette contestation aujourd'hui, qui se déroule dans le calme, mais avec une grande détermination. Les manifestants vêtus de noir, pour signifier leur mécontentement, demandent la démission de Carrie Lam, qu'ils considèrent comme étant la marionnette du régime de Pékin. Sur les pancartes, beaucoup appellent au retrait définitif du projet de loi sur les extraditions. Et ils veulent aussi des excuses pour les violences commises par la police mercredi dernier. C'est une démonstration très impressionnante. On savait le malaise profond dans l'ancienne colonie britannique. Les Hongkongais démontrent aujourd'hui donc leur attachement très fort, très puissant à leur système démocratique. C'est clairement aussi un message direct qui est envoyé aujourd'hui à Pékin.
Merci à vous, Dominique André, correspondante de France Culture en Chine. Dernière déclaration en date, et elle crépite depuis jeudi dernier, celle de l'ambassadeur de Grande-Bretagne en Iran, qui dément avoir été convoqué par les autorités iraniennes, mécontente après que Londres eut incriminé la République islamique pour l'attaque de deux tankers en mer d'Oman. Audrey Tison, le prince héritier saoudien, cible lui Téhéran lors d'un entretien publié ce dimanche au quotidien Shark Al-Ofsat.
Le régime iranien a attaqué deux pétroliers, c'est ce que déclare Mohamed Ben Salman dans une interview à un quotidien saoudien. Nous ne voulons pas une guerre dans la région, mais nous n'hésiterons pas à réagir à toute menace contre notre peuple et nos intérêts vitaux, avertit le prince. Il va donc plus loin que ses propos d'hier. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Conseil de coopération du Golfe avaient chacun interpellé la communauté internationale afin de sécuriser les approvisionnements en énergie. En effet, cette zone, le détroit d'Hormuz voit passer le tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde. Les Émiratis se montraient les plus diplomates, appelant à une désescalade. De son côté, l'Iran nie depuis le début toute implication dans les événements des derniers jours, tout comme il y a un mois lorsque 4 navires avaient été sabotés et que les États-Unis désignaient déjà l'Iran. Tout cela intervient en pleine visite du premier ministre japonais à Téhéran, Shinzo Abe, qui tentait justement de renouer le dialogue entre l'Iran et les États-Unis. C'est loin d'être réussi. Commentaire de Mohamed Ben Salman, le régime iranien n'a pas respecté la présence de Shinzo Abe en attaquant deux pétroliers, dont l'un est japonais.
3 semaines après les élections européennes en Allemagne, Alternative für Deutschland ambitionne de prendre la tête de la municipalité de Görlitz. Dans la Saxe, Görlitz en préambule, de nombreuses autres conquêtes selon les stratèges de l'extrême droite. Le second tour du scrutin, ce dimanche, concentre les attentions de tout l'échiquier politique allemand. Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
Le candidat de l'extrême droite, Sébastien Vipel, a obtenu 36,4% des voix au premier tour. Cet ancien policier de 37 ans aux cheveux ras et adepte de frontières sûres plutôt que de la criminalité sans frontières, fin de citation, a des chances de s'imposer face à son challenger de la CDU. Octavian Ursu, né en Roumanie, habitant Görlitz depuis 30 ans, avait obtenu 30,7% des voix au premier tour. Au second tour, il pourrait bénéficier d'un important report de voix de la part de la gauche. Görlitz, aux confins de l'Allemagne, de la Pologne et de la République tchèque, est devenu le symbole des frustrations liées à la réunification. Chômage élevé, fuite des jeunes et des cerveaux vers l'ouest, désindustrialisation, commerce à vendre par dizaines, la ville, épargnée par la Seconde Guerre mondiale et coulisses de nombreux films produits à Hollywood, tels que Grand Budapest Hotel ou Inglourious Basterds, est profondément divisé. L'arrivée de quelques centaines de réfugiés syriens fin 2015, mal vécue, a achevé de précipiter une partie de la population dans les bras de l'extrême droite.
L'extrême droite française, elle aussi, a bien l'intention de faire de sa victoire aux européennes un tremplin pour les municipales de l'année prochaine. C'est le sujet du Conseil national du parti qui se tient aujourd'hui en terre socialiste à La Rochelle, le Rassemblement national, qui ouvre grand ses portes à tous les militants de, je cite son porte-parole, Sébastien Chenu, des appareils politiques de droite comme de gauche. Fin de citation. De droite comme de gauche, ou bien de droite et en même temps de gauche, voilà qui pourrait convenir pour évoquer l'ancienne de La République En Marche. La République En Marche qui traverse une crise. Bonjour Steven Goyer.
Bonjour Mathieu. Bonjour
une
à tous.
Crise faute d'horizontalité.
En tout cas faute d'une réelle communication horizontale, avec d'abord des tensions dans le Nord. 6 des 9 députés LREM du département ont envoyé mercredi un courrier au délégué général du mouvement Stanislas Guérini pour pointer des dysfonctionnements au sein du comité. Dans ce courrier consulté par nos confrêres de France Bleu Nord, les élus dénoncent pêle-mêle de la rétention d'informations de la part du mouvement local, des dates de réunions transmises au dernier moment, de l'intimidation de militants et même des gestes agressifs et sexistes. Des députés qui actent donc leur mise à l'écart temporaire pour l'instant du comité politique nordiste en attendant une réponse du délégué général et du ministre et ancien maire de Tourcoing, Gérald Darmanin.
Alors Steven, là on est dans le Nord, des tensions dans le Nord mais aussi à Paris en vue des municipales.
Eh oui, puisque sur les 6 candidats à l'investiture, 4 signent aujourd'hui une tribune dans le journal du dimanche pour s'opposer à, je cite, « une désignation précipitée prise entre les quatre murs d'un mouvement politique ». Anne Le Breton, Mounir Majoubi, Cédric Villani et Hugues Ranson réclament un processus fait de débats sereins et de consultations citoyennes. Sans jamais évoquer la mise en place d'une primaire, les signataires insistent sur l'idée de large consultation, l'un des maîtres mots de la création du mouvement En Marche, face à une désignation considérée déjà comme cadenassée. Dans leur viseur surtout, l'ancien porte-parole du gouvernement et candidat à l'investiture pour Paris, Benjamin Griveaux, un marcheur de la première heure qui aurait les faveurs d'Emmanuel Macron. Interrogé par nos confrères du Monde, il estime de son côté en réponse que les primaires sont des machines à perdre. Fin de citation. Deux exemples de la mise en place des rapports de force du côté de La République En Marche en vue des municipales. Deux cas sans doute aussi pour faire pression sur la tête du mouvement à la veille de la présentation des premières investitures.
Merci à vous Steven Goyer. On l'a appris hier, l'ex-président du Soudan, Omar El-Béchir, doit comparaître la semaine prochaine devant un tribunal pour répondre d'accusations de corruption et de possession illégale de devises étrangères. Aux origines de sa disgrâce, le triplement du prix du pain qui, en décembre, avait déclenché le soulèvement populaire que l'on sait. 6 mois plus tard, quelle réalité économique. Notre correspondant au Soudan, Sébastien Nemet, s'est rendu dans une boulangerie de Khartoum. Reportage.
À la boulangerie Marbezet Tahoua, une dizaine d'employés s'activent pour servir les clients attendant leur tour. Mais malgré la petite file d'attente, les affaires ne sont pas bonnes. Tahala Abdallah, propriétaire.
Les prix sont stables mais très élevés. Nous, on gagne peu et si on essaie de faire trop de bénéfices, on sera foutu. Tout a augmenté, la farine, la levure, l'huile, le salaire des ouvriers. Tout cela suit le cours du dollar, il faudrait qu'il baisse. L'instabilité du pays aggrave les choses. J'espère une amélioration avec la chute de Béchir, mais pour l'instant, on n'a vu aucun changement.
Un pain coûte aujourd'hui une livre soudanaise, du jamais vu, explique Mohamed Abdelmoumine, 26 ans.
En 8 ans, les prix ont été multipliés par 10. Le pain, c'est notre aliment principal, surtout à Khartoum, car dans les régions, il y a des galettes pour remplacer. Donc on essaye de travailler plus pour s'acheter plus de pain.
Travailler plus, mais aussi rationner, consommer moins, c'est le choix de Muammar Makin, 17 ans, et de sa famille.
Rien n'a changé, tout est comme avant. Pourtant, avec la révolte, on espérait un changement. Avant, on mangeait 70 pains par jour. Maintenant, on est passé à 30. Nous sommes 17 personnes à la maison.
Les clients le répètent, que ce soit des militaires ou des civils au pouvoir, il va falloir agir pour que les prix cessent de flamber, au risque de déclencher une seconde révolte du pain.
Sébastien Nemeth, reportage à Khartoum. Il est 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. L'Indonésie a renvoyé 5 conteneurs en provenance du Canada et des États-Unis. Au lieu de déchets papier, comme indiqué, les douaniers ont découvert qu'il s'agissait plutôt de déchets plastiques et de couches. Réaction d'un haut fonctionnaire de Jakarta, il n'est pas question de devenir un dépotoir. Plusieurs autres pays d'Asie, qui s'étaient mis eux aussi sur le créneau laissé vacant par la Chine, y renoncent petit à petit. La Malaisie a promis de renvoyer les conteneurs de déchets qui sont arrivés chez elle. Les Philippines n'ont pas hésité à aller au clash diplomatique avec le Canada en retournant à l'envoyeur des tonnes de déchets reçus il y a plusieurs années. Il déclarait ne voir aucun inconvénient à accepter de la part de gouvernements étrangers des informations compromettantes sur ses rivaux. Donald Trump s'est ravisé vendredi. Il a affirmé qu'en pareil cas, il en informerait bien sûr les autorités, la justice et le FBI. Ces propos avaient choqué, d'autant qu'ils ont été tenus à quelques jours du lancement, mardi, de sa campagne électorale pour un second mandat. Rien n'y fait, pas même le contexte régional, très tendu. La crise entre le Qatar et plusieurs monarchies influentes du Golfe a pris, il y a 2 ans, la forme d'un blocus infligé à Doha. En parallèle, les deux camps continuent de mener bataille auprès des juridictions internationales. Et vendredi, Pierre Benazé, la Cour de justice de La Haye a infligé un revers aux Émirats arabes unis dans une requête déposée à l'encontre du Qatar.
Les Émirats arabes unis avaient demandé en mars le retrait de la plainte déposée par le Qatar 1 an auparavant. Dans leur requête, les Émiriens avaient aussi été jusqu'à demander que le Qatar cesse de chercher à aggraver la crise, qu'il arrête d'empêcher les Émirats d'aider les Qatariotes à rentrer chez eux et que les médias qatariens arrêtent de propager des accusations mensongères. Par 15 voix contre une, la Cour internationale de justice estime, je cite, que les conditions ne sont pas réunies pour donner satisfaction aux Émiriens. Pour les Émirats arabes unis, ce n'est pas une défaite cinglante, car le conflit sur le fond continue à suivre son cours. Les procédures de la Cour internationale de justice sont d'une lenteur très classique pour les instances judiciaires supranationales, et l'affaire pourrait mettre plusieurs années avant de connaître son épilogue. Il reste que c'est un revers juridique notable pour les Émirats, dans le conflit qui les oppose au Qatar. Lors d'une audience début mai, les Émiriens avaient même été jusqu'à accuser formellement les Qatariotes de soutenir des groupes terroristes dont Daesh et Al-Qaïda. Cette accusation, déjà formulée en commun avec l'Arabie Saoudite au début du conflit en 2017, n'a pas convaincu les juges de la Cour internationale de justice, ce que le Qatar considère déjà comme une victoire, autant diplomatique que juridique.
C'est au Chili que se trouve la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert dans le monde. La majorité des 4600 salariés de cette mine ont entamé vendredi une grève. Ils rejettent l'augmentation de 1,2% de leur salaire. La mine appartient au groupe public Codelco, qui assure à lui seul 11% de la production planétaire de ce minerai. Et la grève est un sujet sensible pour cette entreprise déjà affectée par la guerre commerciale Chine-États-Unis. À Santiago, les précisions de notre correspondante Justine Fontaine.
Au son de sifflets et de trompettes et en agitant des drapeaux chiliens devant l'entrée du site, voici comment les travailleurs de la mine de Chuquicamata ont marqué le début de leur grève ce vendredi dès 5h du matin. L'entreprise publique Codelco, propriétaire de la mine et plus grand producteur de cuivre au monde, proposait une faible hausse des salaires et de très fortes primes à ses salariés, à hauteur de 16 000 $ environ, étalés sur 3 ans. La mine emblématique de de Chuquicamata, vieille de plus de 100 ans, va commencer le mois prochain à extraire du cuivre dans le sous-sol du site, avec à la clé le départ progressif de 1700 travailleurs dans les prochains mois. Les syndicats demandent une meilleure couverture santé pour les mineurs qui restent, mais aussi pour ceux qui vont devoir partir. Certains sont en effet atteints de maladies chroniques à cause de leur travail à la mine, et aujourd'hui la direction ne leur propose une couverture santé que jusqu'à 5 ans après leur départ. Cette grève est en tout cas ultra sensible pour l'entreprise publique, car en ce moment, la guerre économique entre Chine et États-Unis fait baisser les prix du cuivre et la rentabilité de Codelco, un géant de l'économie chilienne. Il y a 2 ans, une grève historiquement longue avait paralysé l'une des plus grandes mines de cuivre du Chili, au point d'influer sur la croissance du pays et sur les prix du métal rouge à l'échelle internationale.
La pire sécheresse que connaît la Namibie depuis au moins 59 ans pousse le pays à vendre aux enchères 1 millier d'animaux sauvages, une décision prise pour limiter les pertes animales et disposer $1 million pour la conservation des espèces. Selon un rapport du ministère namibien de l'Agriculture, 63 700 bêtes ont péri l'année dernière en raison de la sécheresse. Le pays a déclaré en mai l'état de catastrophe naturelle et sollicité l'aide internationale. À dimanche prochain.
Merci à vous, Nabila Mel. À dimanche prochain, quelques mots de la météo de l'après-midi, temps plus calme dans l'ensemble, bien ensoleillé au sud. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy à la technique, Emmanuel Morse-Duncan.